R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la radio R22, tout le monde. Nous nous branchons aujourd'hui sur les ondes pour monter à bord du troisième plateau du Tout le Monde et remettre en route la série d'émissions organisées par la communauté de la R22. Cela faisait quelque temps que l'envie de se retrouver pour prendre des nouvelles de nous autres commençait à prendre de la place. Nous, ici, ce sont les personnes, les lieux, les associations et les collectifs qui font vivre la radio. Pour ces émissions, nous avons envie de déplier les questions qui nous travaillent, les poser sur la table et s'en parler pour s'outiller dans la perspective de faire pousser d'autres possibilités de vie. Pour la R22, c'est une manière de repartir de la base, reprendre nos questionnements les uns après les autres et avancer étape par étape à partir de nos endroits respectifs. Ici, la base pourrait être entendue comme travailler à fabriquer les conditions pour communiquer en confiance, de rester présent lorsqu'une situation conflictuelle se présente à nous. C'est-à-dire ne pas détourner le regard, ni passer la patate chaude à son voisin ou la laisser pourrir sous le tapis. Elle pourrait nous nourrir pour reprendre des forces. Ces émissions sont donc des endroits pour se parler, se partager des ressources et s'inventer les vies que nous voulons vivre. À partir de septembre, nous allons faire ces émissions tous les mois et aujourd'hui, nous rouvrons cette série en beauté puisque nous nous trouvons dans le cœur de la maison restée étrangère, avec une équipe plus que prometteuse. Autour de ce plateau, nous entendrons Alice Rivière, Barbara Manzetti, Lucie Klessen, Maher Nouira, Mami Kaba, Mohamed Bamba, Nicole Kofi, Olivier Marbeuf et Prince Pacom Nango. Chacun et chacune ayant participé aux antennes Ding Ding Dong, Phoenix est resté étranger. Je suis Simon Marini, et je m'occupe d'animer l'association R22 avec Victor Donati sur les aspects techniques du son, ainsi qu'avec le soutien des antennes de la radio. Pour ce troisième plateau du Tout Monde, nous reviendrons sur les motivations qui ont fait naître la R22 et comment cette radio peut composer un refuge pour les formes vivantes de lutte, les pratiques qui les archivent et les activent. Comment inventer de nouvelles formes de récits de nos propres expériences pour fabriquer d'autres possibilités de vie? Envoyer des signaux à d'autres communautés tout en se protégeant des extractions propriétaires et du regard voyeur. Comment accueillir de petits épisodes de résistance, faire entendre les conversations cachées par la grande fiction héroïque de l'art. Comment faire lieu à partir des histoires les plus fragiles. Là aussi, ce sont des éléments parmi d'autres que constituent les fondations de la R22 et avec lesquels nous dialoguons au quotidien. Pour ouvrir cette soirée, nous plongeons directement dans la 13e séquence de l'antenne Restée étranger, enregistrée en partie dans la maison dans laquelle nous nous trouvons, et qui célèbre l'arrivée d'un nouveau venu dans la famille, le piano.
R22, tout le monde,
antenne.
Restée étranger.
Je suis ici pour ma vie. Je veux être.
être généreuse, gentille de tout. Je suis avec Barbara Mazetti, avec Hassan Abdallah. Ni 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 ni.
Donc là, la zone foncée, c'est une zone...
C'est là où ça a vraiment cuit.
D'accord. Et c'est le plus difficile à...
Ouais, c'est le plus difficile à enlever.
Lavami il dolore dei piedi con l'acqua. Autrement dit, en français, lave-moi cette douleur des pieds avec l'eau.
Mohamed Hussein Abdallah wo karam ben ya Sudan Darfur ne ti hille gambi ya hille gusum khar shamam ti iri wa al mim hille gam o nyor gam ne ti no khar shamam iri wa al mim murabbi hitte gusum abori irgin wo abori irgin nirka fatun ko hitte ga am dugun irgin gandi wa al mim hasa hali an ya sakin niyalati ay ayen karam bi arnuti assalamu alaykum hal yani kana yani mutama dubi fay din ronde tan en ambe yosan kana wagunu duha mini kalu khut alam kite diga kasati am zata bas kango anyote asan ma haya basi
angon se bobini wule en vuga angon soko berpe le boyeni lekodi wani lekodi abukogu walo le bobini angon soko berpe aboyi mi bobini yaye ngoho boppe boyi amarayene lekredi abuka guyi afarane buka guyi ahewone buka guyi angosobre pebone elfane buka guyi bo pebone buka guyi afa dramandi mindrama boy ngodele halho anti heli son buku ligriki bufungudi mohone le bukro so lekredi ayako brepe bugula drama 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 mi ho don drama lo adrama a la meme yere mi arumbin ango yesene derema wani abukogu let yo yere ne ya robin hera boya bendi ya anyo we digbadu hingo le pobo ngrede derema yengay en souti leke hera on sor leke abo yere ne yenge hebo yere ne ye abo yere nu ngula lo mo fayo obre ay ko prepe buy abo de bello de so derema de mi de ku derema ho ho jimi ho he an ya mule ya mara ye gungode muda oyen dere ma mara ye gungare de le gonu sikarele alam selela
je me nomme Mohamed, je vais vous expliquer mon histoire personnelle. Depuis que j'ai mis le pied sur le sol européen, j'ai vu la réalité des choses que je n'imaginais pas. La vie européenne est très difficile. En Afrique, je ne pouvais pas imaginer qu'un blanc pouvait dormir au dehors. Quand je dis un blanc, je parle d'un Européen qui pouvait même être un SDF, un sans domicile, fils. Je ne pouvais pas m'imaginer que des personnes allaient demander à manger dans les centres de Caritas. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait aussi, si je peux dire, de la pauvreté en Europe. Parce que moi, je me disais que l'Europe, c'est un monde de riches, en fait. Parce que étant en Afrique, tu ne peux pas imaginer. Parce qu'on dit en Afrique que l'Europe est le paradis sur terre. Donc, tout ce qu'un homme peut avoir au paradis, tu peux trouver ça en Europe. Pourtant, c'est le contraire. Pour moi, l'Europe est comme l'affaire des immigrants sur terre. La France refuse des immigrants. L'Allemagne refuse des immigrants. Ici n'est pas le paradis.
Continuez avec le corps humain de la danse. Restez près des sols et parcourir les distances qu'il faut. Le corps s'avance pour être prioritaire et il a raison. Le corps que j'ai. Le corps. Parce que mon âme est à l'intérieur. À présent, je peux travailler dans ce but qui embrasse en même temps le monde et mon existence. Dans ce temps réparti en tâches si proches l'une de l'autre.
Ici n'est pas le paradis.
Vivre au paracuré, une familiarité certaine.
Ici n'est pas le paradis.
C'est débile dans chacun de mes gestes. Consigné à la tâche, je constate la convergence magique de mes actes vers un même but.
Ici n'est pas le paradis.
J'aime ce qui me perd. J'aime ce qui me percute et me fait face. Ce qui donne son apparence à mon désir le plus profond. Paris et je dévore.
Et je dévore ce rêve. À l'honneur de cette séquence, l'artiste ivoirienne Nicole Koffi, née à Nibilekrou en 2001, elle est auteure au sein de famille restée étranger depuis avril 2019. Et avec son mari, Prince Paco Mnango, elle est à l'origine de la création de la maison dans laquelle nous nous trouvons, la maison restée étranger à Saint-Denis. Pour présenter cette maison, je vais utiliser un texte que nous avons écrit ensemble dans le jardin. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Nicole. On l'a relu ce matin. Dans cette parcelle de l'espace Schengen, cette parcelle cherche son axe à l'endroit de la langue FLE, le français langue étrangère, qui est en enfoncement de la loi. Ici, c'est une maison d'art et de famille qui a été montée sur étage avec un jardin exotique. La culture et le travail d'anciens planteurs de cacahuètes, d'ignames, de pastèques, avec d'autres Européens qui s'essayent à la plantation de bananiers et d'ignames. Les volets sont bleus à se méprendre quant à leur situation administrative. Je te racontais, Nicole, que les volets bleus, souvent, sont les volets des maisons de vacances. Et qu'ici, il s'agit moins de vacances que de vacations, que d'attentes interminables depuis que nous nous sommes rencontrés. Une entité artistique puissante, appelée famille restée étranger, vit dans un décor qui juxtapose l'héritage problématique d'un oncle africaniste aux solutions modulables du géant Ikea. L'art est la maison qu'ils habitent, lavant leur linge au rythme soutenu du programme Cour, la lessive de marque Carrefour, la machine à laver allemande, une corde à linge rapiécée et leur support d'écriture. Nous avons justement fait une lessive ce matin, après l'orage de la nuit. Et pour vous donner quelques indications sur la séquence numéro 13, Drunyan Tchereko, je prononce bien, Nicole ? Oui. Qui signifie la vie bonne. Ici n'est pas le paradis, traduit donc du Koulango en français par Mohamed Bamba par Ici n'est pas le paradis. Vous avez écouté quelques minutes saisies sur le vif autour du piano qui vient d'arriver dans la maison restée étranger à Saint-Denis. Des essences en sursis, parlées, chantées par Nicole Koffi, Bartolomeo Terrad, Mohamed Bamba, depuis l'Italie, Mohamed Hussein, depuis l'Angleterre, Barbara Manzetti aussi, et Sabrina Pennacchietti, très préoccupée à leur côté. Et des essences imprimées en sérigraphie et lavées au Karcher par Caroline Sebilo. Paroles des auteurs en français, en borgo, en koulango bunduku et en nushi. Au piano se sont relayés Hassan Abdallah, Simon Marini et Bartolomeo Terrad. Et là, j'attends que quelqu'un autour de cette table me regarde dans les yeux. Et Nicole, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler la traduction en koulango de l'intitulé, il me semble, de notre réunion aujourd'hui, La vie bonne.
Drouyan Tchirako.
Et à côté de la vie bonne, la vie mauvaise.
Drouyan Kwanko.
D'accord. Et la vie que tu es en train de mener avec ton mari depuis ton arrivée ici en France en 2019, tu l'appellerais Drouyan Pomko ou Drouyan Tchirako?
Drouyan Kwanko.
Dans quel endroit de cette vie tu... Dans ce fil à linge, j'imagine, cette vie qu'on mène, qu'on a aussi menée ensemble sur le fil à linge du jardin où on a lavé les couvertures, on a lavé les draps, on a lavé nos vêtements. Qu'est-ce que Dieu aimerait laver dans cette machine à laver allemande qui se situe à quelques mètres de nous, qui n'a pas été lavée, qui est restée sale?
Je voulais dire, je voulais laver peut-être mon corps ou mes habits.
Ton corps, dans la machine à laver allemande, il y a, je ne sais pas s'il y a de la place pour les corps, mais pour les habits, certainement. Et toi, Prince, Paco, Nango, c'est un très joli nom. Et je n'étais pas du tout présentée. Et donc, je vais le dire, donc Prince, Paco, Nango, qui est aussi jeune que Nicole. Tu es né en 2001 également?
Exactement. Je me nomme Nango, Prince Paco. Le nom, c'est Nango et prénom Prince et accompagné de Paco. Et nous sommes ici à la maison, restés étrangers depuis printemps 2019. Et nous avons fait de belles choses. Et aujourd'hui, comme je le dis, nous sommes arrivés, j'avais un peu de difficultés et ces difficultés continuent toujours. Ça ne s'améliore pas, mais je garde toujours la foi, comme on le dit, et le courage, car ce que je ressens, c'est moi seul et Dieu, comme je le dis. Et je pense que ce n'est pas du tout facile, mais je garde la foi.
Tu nous racontais tout à l'heure, parce qu'il est question, en fait, autour de cette table, de trouver des stratégies de réparation et pas seulement de raconter des mots, mais trouver comment, en fait, moi qui t'écoute, qui suis face à toi, je peux, en fait, ouvrir un peu plus grand mes oreilles qui sont souvent bouchées et essayer d'accélérer ce processus d'écoute, en fait, de réception et de compréhension de ce que tu me dis. Et j'aimerais bien que tu me répètes les symptômes que tu ressens dans ton corps actuellement après un énième rejet reçu de la part de l'État français, un rejet qui porte sur pas seulement sur ta demande, mais qui englobe plus largement, précisément, qui, en fait, j'ai l'impression, qui enserre ta personne tout entière, ton âme, Et quels sont les symptômes? Qu'est-ce que tu ressens précisément, là, ce couteau là dont tu parlais, qui est dans ton dos?
Merci, Barbara. Énormément, je ressens des coups de couteau. C'est comme si on me poignarde. On me poignarde dans le dos, au niveau des reins, les nerfs. C'est très difficile d'expliquer parce que là, depuis un certain moment, depuis le rejet, j'arrive pas à dormir. Je peux passer toute la nuit, une nuit blanche. Et même quand je trouve du sommeil, ça partit aux environs de 9 heures du matin. Et même je ne peux pas réellement dormir à 4 heures de temps ou 3 heures de temps. Peut-être si j'ai trop fait 2 heures 30, et c'est encore très, très pénible. Et chaque fois, souvent, il m'arrive qu'il faut ma femme, c'est-à-dire Nicole, pour me tenir la main, pour pouvoir me réveiller sur mon lit. Et comme je l'ai dit, je suis allé voir un médecin traitant, et il m'avait aussi, ça fait 6 mois auparavant, qu'il m'a dit cette maladie que tu as, tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton pied. Et tu te retrouveras dans un fauteuil roulant. Et ça m'a beaucoup affecté.
On se disait par rapport à ça que souvent c'est le médecin qui crée le malade, c'est-à-dire qu'il te, au lieu de d'écouter et d'entendre ce que tu est en train de lui dire, qui affecte pas seulement ton corps, en fait. C'est ton corps exprime ce qui affecte aussi ton mental et puis ton âme, puisque je pense que c'est plutôt comme ça que tu figures ta personne, bah, le médecin, il va te projeter déjà dans un futur où tu es immobilisé plutôt qu'un futur dans lequel tu auras repris ton pouvoir sur ta vie.
Exactement.
Et Nicole me racontait, tu me racontais dans la cuisine, quels sont les gestes que tu fais avec la serviette pour soulager cette douleur? Ça pourrait être une indication pour nous.
Oui. Je prends de l'eau chaude et je mets de la serviette à l'intérieur de l'eau. Et je presse et je prends pour soigner son dos qui lui fait mal.
Tu appliques la serviette sur son dos et tu masses.
Masse, oui.
Je peux te demander quelque chose, France. Est-ce que depuis que tu es ici, tu penses que tu as perdu tes pouvoirs?
Exactement. Exactement, j'ai un grand talent. Et avant, je faisais des rêves, ça se réalisait, comme je le dis toujours à Barbara. Et aujourd'hui, avec toutes ces émotions très fortes qui me dépassent, et vu cette situation que nous vivons, ma femme et moi, c'est encore très difficile de pouvoir me concentrer et avoir ce que Dieu m'a donné.
Et tu penses que c'est peut-être retrouver cette capacité à faire des rêves qui peut t'aider à te soigner aussi?
Exactement, puisque tout un être humain a des capacités, à son côté fort, à son point fort, à son point faible. Et du coup, je sais où je regarde. Quelque part, je suis comme un aveugle qui aspire la lumière pour pouvoir avancer. Et si cette lumière s'éteint, c'est comme si je n'arrive plus à avancer. Et c'est cette lumière que je recherche aujourd'hui pour pouvoir avancer, être dans cette société moderne. Parce qu'il nous faut aussi, parmi nous, comme je le dis, Dieu nous a créés tous. Il y a des prophètes, des sages, des cons et d'autres personnes. Tout le monde, comme je le dis, ne peut pas devenir président. Tout le monde ne peut pas devenir des manœuvres, mais il faut un peu de tout, ces hommes-là, pour qu'on constitue une société moderne et efficace. Donc, moi, Prince Pacom, j'ai besoin de cette lumière pour pouvoir avancer. C'est tout ce que je peux vous dire.
Bonjour, je m'appelle Mami Kaba, je suis co-auteur de l'œuvre immatérielle processuelle appelée Bureau de déposition. Et c'est une œuvre qui est malade et c'est une œuvre qui a des co-auteurs malades. Et donc j'aimerais interagir par rapport aux questions posées de Barbara Manzetti à Prince et à Nicole, parce que je suis un corps malade aussi. Et la maladie, elle est psychologique parce qu'on prend depuis la source. Prince et moi, et Nicole, j'imagine, même pas imaginer, c'est des faits. Donc la maladie, elle est depuis dans nos pays. Nos pays sont dominés, et même pas de la domination politique, mais de la domination culturelle, psychologique et matérielle. Donc une fois qu'on vit en Europe, la maladie, elle devient incurable. Voilà. Et donc du coup, quand la maladie, elle devient incurable, c'est-à-dire qu'on n'a plus de repères. Donc le seul souci des politiques étrangères et des politiques européennes, c'est de nous dissuader, de nous enfoncer dans ce trou. Donc, la maladie, elle existe, c'est quand on la pense qu'elle existe. Et donc, elle peut s'effacer par rapport au groupe, elle peut s'effacer par rapport à l'entraide, elle peut s'effacer par rapport à ce plateau. Et j'espère que tout le monde va nous écouter aujourd'hui.
Je voudrais en profiter pour vous lire un texte que l'auteur ivoirien Mohamed Bamba, actuellement exporté par la France en Italie. Et il fait un travail de ramasseur de fruits et de légumes pour l'État italien. C'est un texte qu'il nous a envoyé il y a quelque temps. C'est un texte écrit en nushi, le nushi pouvant être présenté comme un contenant de langue, toujours active, en activité, en échange entre elles. Dans le nushi de Mohamed, il y a le français qu'on lui a inculqué à l'école en Côte d'Ivoire. Et il y a le koyaga, qui est sa langue maternelle. Et puis d'autres langues comme le Bambara, qui sont des langues parlées par plusieurs locuteurs. Alors voilà le texte de Mohamed. Je vis dans diamant, or, pétrole et café, mais je meurs dans la Méditerranée. Mon pays est même le premier producteur de cacao, mais je meurs dans le désert. Et la première fois où j'ai vu le chocolat, c'était en Italie, parce que je ne connaissais pas le chocolat. Mon père aussi, et ma mère aussi. Pourtant, les enfants de Berlin mangent plus de chocolat que nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, alors qu'il n'y a jamais de cacaotier à Berlin. Vraiment, c'est d'une maladie sans médicaments, comme si l'espoir était décédé sur notre continent. Chaque jour, les gens partent, des familles entières, les jeunes, des enfants et même des femmes enceintes qui pleurent déjà le futur de leurs enfants qui va naître. Je vais m'arrêter ici avec la dernière phrase qui est une question de Mohamed. Ce continent est mort-vivant. Je cherche des réponses. Si vous en avez, aidez-moi à comprendre mon monde ainsi que la africaine. Qui pourrait répondre à cette question du continent mort-vivant?
Et la question que pose Mohamed dans son interrogation, c'est de savoir est-ce que le continent africain, dans le futur, dans le présent, va continuer à subsister. Parce que je rappelle qu'il y a des milliers d'années, le continent a été envahi par des expéditions, notamment des Européens et des Américains. Et ces expéditions ont contribué à l'élaboration des politiques de domination, d'extraction de nos ressources. Et ce qui fait que quand on se projette et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des industries, des lobbying, enfin, comme Nestlé, comme Carrefour et comme plusieurs entreprises qui continuent à subsister, donc on se pose la question, est-ce que l'Afrique a perdu quoi. Donc c'est la question dont se pose Mohamed parce que les multinationales continuent à exister. Au niveau de l'art, la réponse elle est pas simple, mais elle est connue de tous. Et qu'on se rappelle bien que la France elle a tenu des propos sur l'art africain. Donc on sait pertinemment que toutes les œuvres, presque la quasi-totalité des œuvres africaines, surtout subsahariennes, sont exposées dans les musées européens, notamment en France. Et donc, quand les œuvres africaines sont exposées dans les musées européens, donc ça veut dire qu'ils sont détournés de leur contenu et de leur adresse. Et donc, l'art africain, en ce jour, n'est plus représenté parce qu'il n'y a plus ces fonctions, il n'y a plus ces personnes qui sont là pour révéler les fonctions que l'art africain a là. Je rappelle juste une anecdote d'un film, Black Panther, c'est un film Marvel, c'est de la science-fiction, mais tout au début du film, il y a un passage qui indique que l'un des acteurs du film, il va dans le musée pour chercher à savoir quels sont les outils ou les œuvres qui datent du Wakanda. Et le monsieur, il a demandé à l'inspectrice du musée, et elle a dit, c'est quoi cette œuvre? L'inspectrice lui a répondu, la première œuvre, elle vient du Bénin depuis le XVIIe siècle et le contenu de l'œuvre. Et la deuxième œuvre, le monsieur lui a posé la question, elle vient d'où cette œuvre? L'inspectrice lui a répondu qu'elle vient du Togo, du XIIIe siècle, etc., etc. Et après avoir fait le tour des œuvres, que le monsieur souhaite savoir les réponses, il a immédiatement répondu à la dame en disant que madame, vous n'avez pas raison, et que cette œuvre, la première œuvre que vous m'avez dit qu'elle vient du Bénin depuis le XVIIe siècle, que non, que ça vient du Wakanda, et le monsieur a retracé toute l'origine, toute la tracée de l'œuvre. Donc l'inspectrice, elle a 65 ans d'expérience au sein du musée. Donc ça veut dire que toutes ces années d'expérience n'en valent plus la peine. Donc on crée des personnes, on crée des situations qui ne sont pas des personnes liées à l'Afrique, qui ne sont pas des concepts liés à l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui l'art africain est inexistant en Europe. C'est pourquoi aujourd'hui l'art africain, enfin les auteurs africains ne sont pas en résidence dans les pays européens. Merci.
Tu te souviens de ce film, Nicole, nous sommes allés le voir ensemble.
Oui, oui. Hein? Oui.
Qu'est-ce qui t'avait plu particulièrement? Qu'est-ce que t'avais...
J'ai aimé ce film parce que ça parle aussi du Wakanda. J'ai beaucoup aimé ce film.
Et les femmes, tu te souviens, les femmes guerrières?
Les femmes, oui, oui.
Ah oui.
Oui.
On s'était identifiés à ces femmes-là. Je me souviens qu'on était ressortis bien réquinqués par leur combat. Oui.
Moi, je voulais juste poser une petite question en plus à Mamie pour peut-être une transition aussi. Donc moi, je suis Olivier Marbeuf. Dans ce que tu dis, en fait, de contenus qui ne sont plus en Afrique, est-ce qu'alors on peut commencer à réfléchir aussi à un état un peu dispersé du continent africain depuis longtemps, depuis même la traite des esclaves, qui crée donc aussi toute une Afrique qui est en dehors du continent, donc les fameuses diasporas? Et est-ce que quelque chose donc, de ce mouvement de diaspora, c'est-à-dire de séparation, d'extraction, d'éloignement, ne peut pas être un élément de réparation en reconstituant en quelque sorte, non pas l'Afrique telle qu'elle est, mais une espèce de nouvelle Afrique presque imaginaire? Je disais ça parce que j'avais été très intéressé par une chercheuse, en fait, anglaise d'origine jamaïcaine, qui a fait un travail spéculatif en essayant d'imaginer ce que serait la Jamaïque aujourd'hui si on ajoutait la diaspora jamaïcaine à la Jamaïque. C'est dire quel pays ce serait, en essayant de se dire qu'en fait, c'est un pays qui ne peut pas être jugé que sur les gens qui sont sur l'île en particulier, mais auquel on doit ajouter tout ce que la diaspora jamaïcaine a apporté en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, etc. Et donc, elle a essayé, mais très sérieusement, de rassembler la production, l'économie, des éléments de PIB, et refabriquer un pays en termes culturels et en termes aussi socio-économiques. Et je me demande si on n'est pas obligé, en fait, d'inventer l'Afrique à cause de la dispersion qui a eu lieu de ceux qui la constituent depuis 500 ans au moins. Et donc, quelque part, cette question du pays fantôme de Mohamed, moi, je la prendrais, une fois n'est pas coutume, à l'envers, en fait. Pas comme un défaut, le pays, il est fantôme, alors c'est sa nature. Et j'ai l'impression que dans des situations qu'on vit aujourd'hui, après la colonisation, on est forcé de prendre, en fait, ce qui pourrait être négatif, sans valeur, le reprendre et dire, eh ben, écoute, c'est de là qu'on part. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas partir de l'Afrique fantôme pour refaire l'Afrique à venir, quoi. Peut-être, voilà, parce qu'en gros... et fantôme, ça veut dire pour moi qu'elle a quand même une présence, quoi. Comme quand Prince parlait de ses visions. C'est pas rien d'être fantôme, c'est pas l'Afrique nulle, effacée, c'est l'Afrique fantôme. Donc peut-être que du fantôme, on peut retisser une espèce de pays, tu veux?
C'est moi, Prince, encore, et je pense que si Mohamed disait que l'Afrique aujourd'hui devient comme un fantôme, c'est compte tenu de sa valeur et ses traditions qu'elle perd. Et il soulève la question aux autorités aussi et à nos dirigeants de bien pouvoir instaurer ces valeurs qui disparaissent de jour en jour. Ces valeurs qui font que, puisque comme il disait, on nous fait croire que l'Europe est un paradis, et une fois nous arrivons en Europe, quand on constate qu'il y a certains soit européens qui dorment dans les rues, c'est comme il a soulevé tout un tas de questions, de problèmes qu'il a vécu, soit en Italie ou en France ici. Et du coup, tout ce que les Africains, beaucoup parmi nous, demandons, c'est qu'on puisse, que nos dirigeants ou je ne sais pas, puissent mettre en place les traditions, les valeurs pour pouvoir éviter ces vagues d'immigration vers l'Europe. Et voilà ce que moi je vois. Parce que quand un Africain parle, il parle de ses traditions, il parle de ses valeurs. Et il y a plein de choses que nous avons aujourd'hui, nous les enfants d'aujourd'hui, nous avons oublié. Et que nos parents, nos grands-parents qui faisaient avant, aujourd'hui, sont en voie de disparition. Merci.
Okay. En ce qui concerne la problématique de l'Afrique, d'ailleurs, c'est-à-dire de la diaspora, donc si la contribution de cette Afrique, enfin, elle est positive, donc moi, je ne pense même pas, donc, c'est en marche. Tout à l'heure, avant cette émission, on a, dans les coulisses, on a parlé des parcelles et des plantations. Donc, j'imagine, je sens que cette diaspora africaine, elle s'est créée cette petite parcelle pour justement mener à bien cette réunification de l'Afrique d'ailleurs. Donc justement, il y a des exemples qui sont passés. Je connais un exemple brésilien, c'est-à-dire deux artistes brésiliens qui se sont retrouvés en Angleterre. Donc on nous a expliqué au Centre National Art Contemporain de Grenoble cette histoire. Donc ces deux Brésiliens, ils ont quitté le Brésil dans l'espoir de faire le tourisme en Angleterre. Et dans ce temps, ils ont été visiter les musées. Et il y a un des musées en Angleterre qui regorge des œuvres brésiliennes depuis le 13e ou 10e siècle. Donc les deux visiteurs, ils ont vu ces œuvres. Ils ne connaissaient pas ces œuvres de vue, mais ils ont tellement entendu parler de ces œuvres par les traditions, par la coutume, qu'ils connaissent l'œuvre. Voilà. Donc ils étaient en face de l'œuvre, ils ont su que c'est l'œuvre dont on leur parlait depuis des générations. Ils ont dit qu'ils ne vont jamais quitter, qu'ils ne quitteront pas l'Angleterre sans ces œuvres-là. Et ils l'ont fait. Et vous voyez, et donc c'est de la, ils se sont déplacés, donc du coup je peux les considérer comme de la diaspora, pas des Brésiliens autochtones, mais d'ailleurs. Mais ils ont su mener à bien cette petite parcelle qui leur a été cédée pour justement essayer de réunifier les œuvres brésiliennes. Donc moi je pense que c'est la réponse pour le moment que je peux apporter.
Moi je suis peut-être je ne sais pas si c'est une réponse, mais ça m'a évoqué des images que je vois ici dans la maison. Quand je me pose la question de quand on me demande si je vais partir en Afrique, par exemple, et je me dis, mais pourquoi je partirais en Afrique quand c'est l'Afrique qui continue d'essayer d'arriver ici et qui n'arrive pas à arriver? Un peu comme si la porte restait ouverte, mais que Nicole, que Prince, que Hassan, qui est ici depuis maintenant je ne sais plus combien d'années, ils sont toujours en train d'arriver. Une très, très lente arrivée en Europe avec tous ces barrages et ces filtres. Et hier, parce qu'on a parlé d'une machine à laver allemande, hier, cette robe, Nicole, que tu ne pouvais pas laver à la machine, que tu as lavée à la main, tout à coup, tu as pris cette bassine. Et qu'est-ce que tu m'as dit?
J'ai dit que je me retrouve en Afrique.
Ouais, ouais.
Où on lavait les habits avec la main.
Ouais. Donc en fait, on se retrouve tout le temps en Afrique. Quand on est ici... Et ce déplacement, enfin ce fantôme dont tu parles, Olivier, il est autant nous sommes un fantôme de l'Europe à chaque fois que cet imaginaire aussi qui vient de notre éducation absolument pénible et très très fortement inscrite dans nos racines, dans nos oreilles, en fait, cette éducation, moi qui continue de boucher mes oreilles, qui m'empêche d'entendre ce que mon fils qui me dit depuis donc 4 ans, il me dit « j'ai dormi dans la rue ». Et moi, je réponds, on l'a amené chez le médecin, qui lui dit « mais non, mais vous n'avez aucune maladie, que vous n'avez attrapé aucune maladie dans la rue ». On recherche toujours, on écoute, j'écoute cette phrase, et au bout de 4 ans, je me rends compte que je n'ai pas donné de réponse. Je n'ai pas... Il entretient toujours le même malaise, le même... Lo stesso disturbo, on dirait en italien, la même perturbation, un peu comme s'il y avait une perturbation toujours devant lui, autour de lui, qui l'empêchait d'arriver, quoi. Comme si la rue était toujours dans sa chambre, ou au pied de son lit, ou lui qui dort la porte ouverte, ou... Et des fantômes, il y en a plusieurs.
Je voulais faire une petite transition justement en parlant de ça. Déjà, j'aime bien cette anecdote avec Nicole, ce que tu parlais de comment les choses reviennent dans le corps parce qu'on fait des gestes qu'on a déjà fait. Ce qui permet de faire comprendre que quand on évoque ici le fantôme, on parle d'une chose très matérielle. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que les questions de d'antise et d'anthologie sont souvent vues comme des notions sans consistance. Et moi, je pense que la question de la matérialité de ces fantômes, elle est très importante. Et c'est aussi par là qu'on arrive à leur redonner du présent, quoi. Par exemple, des situations, moi, de rue, j'ai été dans des situations de rue en rapport avec des moments un peu difficiles, parfois des meutes avec la police, fait qu'à chaque fois que je reviens de faire une manifestation, mon corps revient quand même à un ensemble de choses. Et donc, c'est pas que une hantise, c'est de la matérialité. Donc ça, c'est important pour moi. La deuxième chose que tu as dit, qui est pour moi extrêmement importante et qui peut nous relier plutôt que nous opposer, c'est que cette idée de ne jamais tout à fait arriver va se poser après pour nous qui voulons une autre société que celle dans laquelle on vit. Et donc, on n'est jamais encore tout à fait en train de vivre la vie qu'on veut. Donc, on est toujours en train de devenir la personne qu'on voudrait être. Et c'est là qu'on peut s'accompagner, en fait. C'est-à-dire que plutôt qu'être... quand on parle de réfugié, c'est une expression que moi, j'aime pas parce qu'on a l'impression que nous, on est le refuge et les gens, ils sont réfugiés, quoi. Mais nous, on est aussi en train de chercher quelque chose, un refuge. En fait, on est tous dans un mouvement de chercher nos vies et c'est comme ça qu'on peut accueillir les autres en disant pas « viens ici, c'est le paradis ». Ce qui est en plus très violent, parce que moi, quand je me suis retrouvé en Haïti en parlant avec des Haïtiens et ils me disent « bon, la France, c'est le paradis », moi, je n'ai pas grandi dans le paradis, quoi. Donc, je ne savais pas en fait quoi leur dire à part dire « c'est violent pour vous de penser ça parce que vous allez avoir des mauvaises... » Mais c'est violent pour nous qui nous savons que ce n'est pas le paradis et qui vivons toute la violence de l'absence du... Donc, entre nous, il y a une fausse histoire qui ne peut pas être une histoire de nos relations à nous. Il faut qu'elle se construise sur une autre base. Et cette autre base-là, c'est, je crois, la question du devenir. Et je pense qu'il y a Émilie qui va peut-être nous parler aussi de cette question de la possibilité de devenir, en fait, une certaine forme de vivant.
Salut la R22, c'est Alice Rivière. Je vous donne des nouvelles de l'antenne Ding Dang Dong. Alors, au début, nous, on a surtout fait des recueils de récits de personnes par elles-mêmes concernées par la maladie de Huntington, parce que c'est une époque où on entendait très peu la voix des personnes, des patients directement. Et puis, peu à peu, la communauté Huntington a commencé à se faire plus entendre à ce niveau-là. D'une part, donc, on n'était pas, du coup, dans quelque chose... qui était tout aussi nécessaire qu'avant. Et en plus, des podcasts vraiment bien maintenant existent là-dessus. Et puis d'autre part, je pense qu'avec le recul là, je pense qu'on était en train de tomber sans faire exprès du tout dans quelque chose qui ressemblait un peu au témoignage des bons patients, quoi. Parce que la frontière est très tenue entre qu'est-ce que c'est que de bien vivre avec cette maladie-là. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon patient ? Et c'est là-dessus, moi, je voudrais un peu parler. Et ce qui m'a fait comprendre ça, c'est dernièrement, par exemple, l'histoire d'une amie, une grande sœur huntingtonienne qui s'appelle Florence Thiebles. Et c'est important que je cite son nom parce qu'on est typiquement dans le genre de choses où l'anonymat, vraiment, la déposséderait de quelque chose. Plutôt que l'inverse. Et Florence, elle est en train de se battre pour ne pas être pénalisée parce qu'elle a fait pousser dans son jardin du cannabis pour sa propre consommation et parce que cela lui évite de prendre des neuroleptiques qui, pour elle, ne lui convient absolument pas. Dans le cas de Huntington, ça la déforce, ça la... Comment dirais-je ? Ça n'a pas de nuance, hein, le neuroleptique te met dans un tuyau bien particulier toute la journée. Et c'est pas forcément ça qu'on a envie quand on a une Huntington et qu'on sent qu'on a des dragons qui parfois en effet se réveillent, etc. On a envie de quelque chose de beaucoup plus nuancé, de beaucoup plus ponctuel. Et c'est ce qu'elle a trouvé avec le cannabis, qu'elle sait très très bien utiliser et qui fait que ses journées ont complètement changé et ses nuits. Depuis qu'elle utilise le cannabis thérapeutique, et elle s'est fait dénoncer. Et du coup, il y a une procédure en cours, là. Elle se bat beaucoup pour essayer peut-être de faire jurisprudence. Le juge a, pour la première fois, pour l'instant, suspendu son jugement en disant « j'ai besoin de mieux connaître en quoi, en effet, le cannabis peut vraiment apporter quelque chose dans votre cas. Et donc là, à partir de ce moment-là, disons que quelque chose s'ouvre de possible en termes aussi, d'intelligence collective, c'est-à-dire que elle est en train de faire que les avocats, les usagers et la juge soient au même niveau qu'elle, à ce niveau-là, comme co-chercheur de quelque chose, et pas uniquement dans une lutte classique. Et je crois que vraiment là, on en est exactement là, et c'est ce genre de choses dont on a un besoin vital, tout comme vous, je pense, autour du plateau de ce jour, de l'antenne, de la radio R22. C'est-à-dire des endroits où comment on peut mener des luttes via des interstices qui peuvent changer la donne, même si ça paraît très modeste à la base, mais qui en réalité peuvent vraiment changer l'équilibre des forces. Et du coup, la collecte de ces jurisprudences-là, en train de se faire, tandis qu'elles se font, maintenant, je pense, va devenir un peu un nouvel axe pour notre antenne. Et du coup, juste pour dire aussi quelque chose sur ce que ça nous apprend, l'histoire de Florence, c'est aussi que ce contre quoi on essaye de lutter, au fond, à Ding Dang Dong, il ne faut pas perdre le cap, c'est comment... dès qu'on baisse la garde, on ne s'appartient plus, quoi. C'est-à-dire que même avec des médecins gentils, compréhensifs, même avec un appareil judiciaire gentil et compréhensif, humain, etc., il faut quand même suivre la norme qu'eux ont édictée et qui nous déforce pour autant, alors qu'on est, en tant qu'Huntingtonien, pas des enfants à protéger dans ce sens-là. Alors, il s'agit d'arriver à récupérer, en fait, finalement, nos corps dans cette histoire qui nous appartiennent, qui n'appartiennent pas à la médecine, et, etc., pour autant. Alors, on n'a pas fini d'explorer, notamment là, par exemple, sur le cannabis, pourquoi ça fait tellement, ces blocages... notamment en France, et nous, notre prise, elle est du côté thérapeutique, pas du côté forcément de la pénalisation tout court. Et la prise par le thérapeutique, du coup, ouvre sur des chemins de pensée extrêmement intéressants et en plus joyeux, ce qui fait vraiment et pas un mince effet. Et d'ailleurs, c'est pas hors sujet cette histoire de joie dans la problématique thérapeutique avec le cannabis. Parce qu'il y a une chose qui est incroyable, moi en tant qu'usagère, je m'y colle tout le temps, quand je repère quelque chose qui me fait du bien, qui n'est absolument pas prescrit par mes neurologues, et que c'est des choses de l'ordre, en effet, du sativa versus de l'indica versus... de produits plus ou moins psychostimulants, eh bien, c'est vraiment la croix et la bannière pour se faire entendre en tant que ça serait quelque chose à ajouter dans mon pilulier. Hein. À partir du moment où on commence à être demandeur de ça, c'est totalement suspect et en gros, ça devient totalement inatteignable, même si moi, en habitant en Belgique, je pourrais accéder à plein de choses à ce niveau-là. Et on se demande vraiment, mais pourquoi à partir du moment où non seulement ça fait du bien sur certains symptômes vis-à-vis duquel les traitements neuroleptiques et autres font pas du tout du bien, mais surtout ça fait du bien en termes, les effets sont chouettes. On rigole, on est détendu, tout est moins dramatique, etc. Mais... pourquoi diantre ces effets secondaires-là seraient-ils à proscrire des effets des psychotropes et des médicaments qui sont les nôtres dans ce genre de maladie? Vous savez, des notices sur les effets secondaires, c'est que sur des effets négatifs toujours. Hein. Or, moi je prends des médicaments, là pour le coup je ne parle même pas de cannabis, qui ont des effets très très intéressant et sympa. Et ça, c'est jamais écrit. Ou alors, c'est écrit comme un truc à surveiller et louche. Si vous vous sentez euphorique, appelez tout de suite votre psychiatre. Mais non, je regrette. L'euphorie là-dedans, je la prends avec moi et j'en fais quelque chose. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut vraiment prendre pour le coup au sérieux. C'est ces joies-là qui nous importent. Et à ce niveau-là, ben, on en revient toujours à la même chose. C'est quelque chose, je pense, qui nous habite tous, à la R22. C'est que on peut pas aller vers ces chemins-là sans fabriquer par nous-mêmes de savoir à ce niveau-là. Parce que du coup, tout ce dont je parle, les effets secondaires qui seraient mauvais alors qu'ils nous mettent en joie, ou etc., c'est mis à la poubelle par les chercheurs et par les médecins. Alors que nous, cette poubelle-là, on la met vraiment en plat de résistance, quoi. Et ça doit donc passer par la création de savoirs là-dessus, parce que les médecins n'en fabriquent pas des savoirs là-dessus. Et là, à ce moment-là, on a, pour ce point-là, hein, uniquement par exemple, mais des alliés partout autour de nous, et notamment psychoactif.org, Newsweed, etc., tous les blogs à l'heure actuelle là-dessus, et on a vraiment des interlocuteurs à ce niveau-là pour penser comment lutter à récupérer nos puissances à nous. Alors voilà, j'ai hâte de vous écouter sur vos puissances à vous, et je vous dis à très bientôt. Salut.
On vient d'entendre Alice Rivière de Bruxelles, et on... Je vais te répondre comme si tu étais au présent, Alice, puisque ton intervention nous a, je pense, inspiré aussi pour faire des liens avec ce dont on discutait tout à l'heure, et nous a fait aussi beaucoup rire. Et notamment, on discutait juste avant de la nécessité aussi de cultiver des parcelles depuis lesquelles on peut trouver un peu d'air pour respirer et puis se remettre en forme. Et... là, je pense que tu viens aussi toucher un point sur lequel on essaye aussi de travailler avec la R22, mais pas l'idée d'avoir une radio homogène avec un ensemble de personnes qui vont directement dans le même sens, mais une mosaïque comme ça de parcelles avec, depuis lesquelles aussi on peut se partager un ensemble de trucs et de trouvailles et de manières de faire qui puissent nous renforcer justement quand tous les processus... institutionnel, culturel, étatique, etc., de justice, nous déforce, comme tu dis. Tu nous as aussi envoyé une petite musique qui peut nous servir aussi pour faire une transition. Ça s'appelle Indica Badou. C'est un morceau de Logique avec Wiz Khalifa.
Having the OG Kush meeting. If love from the chiefin'. I'ma get high when I wake up and roll me one more before I'm sleeping. Man, I be smoking so good that I be forgetting the past. It don't even come to my house if it ain't wrapped up in a turkey bag. We roll up the urban lab, kick back, blow a zip, take it on the plane. No, I smoke the same when I'm on a trip. Nigga like me always got weed on her. Try to tell me that she don't smoke later on, she joining. Ain't no point, no, I'm back, keep going in. You been rolling with cats who boring. I be bringing the stacks enormous. Section always in the back important. Bad bitch gorgeous, back important.
Smoke a little something, kick back and then floss. Chief in that indica, indica, cut my anxiety to get lost. Fuck a pill, only numb the pain, man, you know how much that shit costs. I ain't talking about your pocket, no, I am only talking about the mind. When the cannabis combined with the brain, it be like everything you seen just seem to shine. Smoking that golden state, everything going great. Got a lot on my plate, not a single complaint. Stack of money in the bank, this that rap pack and that Taylor gang. They know the face and they know the name. I'm a married man with a bad wife, never fuck around unless it's Mary Jane. Come play the game, now this shit never the same. Just like my flow, got one for every occasion. Living that life, so my life is amazing.
I can't get much higher, been smoking and buying. Ride around the city with my homies, they know me, know that I can't get much higher.
C'était un morceau de Logique qui nous a accompagnés en cette fin d'après-midi à Saint-Denis. On est à la maison Restée Étranger, autour d'une table. La température un petit peu a monté avec la proposition d'Émilie de se laisser aller au délire. Moi, ça m'a fait penser à une conversation que j'avais déjà eue sur la R22 avec le collectif Coyote, où j'essayais de réfléchir justement avec eux à la possibilité d'un commun qui serait un partage des capacités à délirer et qui allait contre l'idée même de justement l'organisation du commun et du collectif comme une structure raisonnable, mais au contraire partager la capacité à avoir des visions, partager la capacité à faire des choses qui relèveraient plutôt des formes du délire. Et donc je trouve que écouter Émilie une fois de plus nous donne un beau matériau. Elle parle aussi à un moment donné dans sa relation en tant que Huntingtonienne du médecin, qui est donc une figure à la fois problématique et tutélaire de la communauté, à travers l'idée de se faire entendre dans ses désirs et aussi dans ses savoirs. C'est-à-dire qu'il y a un savoir de la maladie, on sait ce qui est bien pour nous, on sait aussi ce qui nous fait du bien, et c'est un savoir qui n'est pas entendu. Et je trouve que se faire entendre, c'est quelque chose qui est... On en a parlé tout à l'heure aussi avant de commencer l'émission, et est une chose difficile parce que en fait on doit en quelque sorte à la fois dire quelque chose et créer les conditions pour que ce soit entendu, et ces conditions pour qu'elles soient entendues, elles dépendent de ce qu'on dit. Donc on a une espèce de moment où doivent se faire en même temps, dans le même temps, dans la même énergie, le lieu où se passent les choses, mais ce lieu il est produit par la parole, et la parole elle existe dans ce qu'elle a produit en quelque sorte. Et donc ça me permet de réfléchir aussi à cette question de la veillée, qui était aussi un motif que moi j'ai transporté avec moi depuis quelques années et que j'ai aussi emmené à Clichy-Montfermeil lorsque j'ai été invité par les ateliers Médicis à venir en résidence d'auteur. Et comme je cherchais une manière d'être présent sur ce territoire avec d'autres personnes. Je l'ai aussi imaginé à travers la question de la veillée, où on ne peut rien faire seul en quelque sorte, où la veillée elle-même ne peut pas exister comme un geste d'auteur parce qu'elle est totalement dépendante des autres voix, des autres présences, des autres actions, des autres énergies. Et ce motif de la veillée m'a intéressé. Après, je l'ai partagé en différents projets et je me suis rendu compte qu'à des moments donnés, il prenait des formes plus rigides, arrêtées, comme un espèce de spectacle par exemple, alors que d'autres moments donnés, il restait un moment vivant, un peu incertain, dont personne ne pouvait complètement en devenir le propriétaire ou la signature. Et donc, on a travaillé, et ce soir, en fait, on a Lucie et Maher qui sont partie de ce groupe, qu'on a un petit peu cette espèce de petite compagnie, ou cette espèce de. Voilà, un ensemble de veilleurs et de veilleuses, qui depuis, ouais, ça fait maintenant un an et demi au moins, je crois, en fait, qu'on est en train de. Ensemble, et même on a réussi à traverser le Covid en travaillant sur Zoom. C'était pas gagné parce que c'est pas très sexy, mais on a quand même, avec le fil des textes, continué à maintenir cette espèce de parole emmêlée en quelque sorte, d'emmêlement de paroles, de tissage de paroles, qui a notamment créé, parce que c'est pas que ce que ça crée, mais qui a notamment créé cet objet de fiction radiophonique qui s'appelle La Forêt. Et qui est une espèce d'œuvre qui se développe au fur et à mesure, par épisode, à partir justement du tressage de différentes voix. C'est aussi une œuvre, pour moi, d'hospitalité, parce que le groupe qu'on est au départ, avec aussi Delma, Faten, donc Maher et Lucie, accueille en fait dans chacun des épisodes des invités, donc c'est un geste d'hospitalité. Dans le deuxième épisode, on aura un conte de Nicole, par exemple, on peut aussi accueillir Mamie. Dans le premier épisode, on avait accueilli Zach Turin depuis Port-au-Prince et James Desiris, qui est à Las Caobas aussi en Haïti, et qui avait offert aussi des fragments. Donc l'idée aussi qu'une histoire puisse être un lieu d'hospitalité est aussi une manière d'essayer, encore une fois, de produire cette petite parcelle de possible, en partant du principe que tout ce qui nous fait du bien nous sert à quelque chose, quoi, sans avoir besoin de l'adresser à un objectif ou à un futur. Déjà dans le présent, ce qui nous fait du bien nous fait avancer dans un sens. Voilà, je voulais donner la parole à Maher qui va partager un texte avec nous, et puis Lucie qui va aussi nous dire quelques petites choses sur cette fameuse veillée.
Alors merci Olivier. Donc je m'appelle Maher Nouira. Donc je suis écrivain et je participe avec Olivier à ce projet de veillée. Et aujourd'hui je voulais vous lire un texte. Alors c'est un texte qui est né en fait d'une situation que j'ai réellement vécue mais que j'ai un peu fantasmé, et donc que j'ai réalisé sous forme de récit fantastique. Je vais vous lire maintenant. Je l'ai nommé « Le rêve de l'enfant lumière ». Bonjour, je m'appelle Lumi. Dans ma langue, ça veut dire « petite lumière » ou « petit biscuit ». Je suis un peu maigre. Je mange pas trop, mais ne m'en veuillez pas. Je n'ai que 5 ans. J'essaie de vous écrire de mes doigts d'enfant, dans le noir. Avant, j'avais de longs cheveux, avec des boules d'or au bout des mèches qui faisaient chac-chac, chic-chic. Elles avaient des dents pointues, toutes mignonnes et toutes menues. Chac-chac et chic-chic, ce sont mes deux précieux compagnons, mes deux trésors. Ma mère et mon père aussi en avaient, des boules. Mais ça, c'était avant. Des méchants me les ont coupées. Et ils ont fait du mal à mes parents aussi. Ils m'ont pris chac-chac et ont rendu triste chic-chic. Puis ils m'ont jeté ici. Comme beaucoup d'autres, j'ai atterri dans la fange, dans cette noire nuit, qui est désormais notre seul compagnon, notre seul ami. Je vis dans le noir, comme dans un placard. Vous avez bien entendu, comme dans un placard. Il fait froid ici, et c'est humide. Désolé, je ne peux pas vous dire vraiment où je suis. Des enfants comme moi errent dans ce trou et luttent pour leur survie. Les enfants, ils sont gentils. Il y a Eya, Aza, Gazi, Malak. Il y a des adultes aussi. Je ne connais pas vraiment les grands et j'ai pas trop envie. Il y en a qu'une que j'aime bien, c'est Stéphanie. Elle a encore une boule, alors que c'est une grande. Stéphanie et Chomp-Chomp, ce sont mes meilleures amies. Elle est toujours là pour nous aider. Mais un jour, elle m'a dit, Lumi, apprends à te cacher, à te fondre dans le noir, à faire comme si tu étais dans un placard. Alors je l'ai fait. J'ai appris à me cacher, à me fondre dans l'obscurité, à faire comme si j'étais dans un placard. Il fallait éviter les autres. C'est Stéphanie qui me l'a dit. Des âmes perdues ont grandi ici. Mes copains, ils chuchotent toujours un nom. Un truc à pas dire. Sans lumière. Eux, on leur a volé toutes leurs boules. Ils sont devenus complètement aveugles. Je ne m'approche pas d'eux, ils font trop peur. Parfois, de la nourriture jetée d'en haut, et c'est alors une lutte sans merci. À qui prendra le plus, à qui sera le plus fort. Et parfois, les méchants entrent et attrapent l'un d'entre nous pour lui voler sa lumière. Le pauvre est ensuite rejeté dans le trou. Je suis trop petite pour savoir. Mais avant, Stéphanie, elle m'a parlé d'un autre endroit, plein de couleurs et de fleurs. C'était notre maison, notre foyer. Chic-chic, il pleure quand elle en parle. Alors je caresse mes mèches et il se calme un peu. Peut-être qu'il repense à chaque. Je voudrais le retrouver pour que toute notre petite famille soit enfin rassemblée. Je demande à mon amie ce qu'il s'est passé. Elle me regarde et caresse Chic-Chic. Prends soin de ta lumière, elle me dit. Je lui demande pourquoi et que je ne veux pas ressembler au sans-lumière. Stéphanie me dit que ce n'est pas de leur faute, que c'est les méchants qu'ils ont rendus fous à force de les taper. À ce moment-là, elle se tait. Elle ne peut pas continuer. Puis elle me serre dans ses bras et me dit d'être forte et que la souffrance passera. Elle dit qu'on est les reliques d'un monde disparu et que les méchants ne veulent plus nous voir. Ces êtres noirs se nourrissent de cette lumière et ont plongé notre monde dans le désespoir. Stéphanie, j'ai pas envie qu'elle soit triste. Si je pouvais, je ferais le rêve de retrouver Chac-Chac et on mangerait plein de gâteaux et de bonbons avec elle. Et Chic-Chic. Mais c'est pas possible. Alors quand je peux, parfois, je lui donne les restes de ce que j'ai, des bouts de biscuits. Elle sourit et me dit « Merci, petit biscuit. »
Moi, je m'appelle Lucie Clessène. Donc, je fais partie de la veillée avec Maher qui vient de lire ce texte et Olivier. Et je suis rencontrée Olivier aux ateliers Médicis parce que je fais partie du collectif là-haut, je suis cinéaste. Et on travaille aussi sur une maquette vivante, un objet entre cinéma et architecture, où Maher et Faten notamment ont travaillé avec nous aussi. Et qu'on expose ce week-end à la Film Galerie à Strasbourg-Saint-Denis. Je vais récupérer mon portable. Parce que... Du coup, je vais vous lire un texte sur la veillée qu'on a faite, une des veillées qu'on a faites à Clichy-sous-Bois. Et faut que je la retrouve. Donc c'est la branche. Le bois est plongé dans la nuit. Un petit bois, un boisillon, planté là. Entre un terrain de basket, une fosse massoin, un transformateur EDF et les belles tours immenses frôlant les étoiles. Du haut de notre branche, un peu plus bas, perché, nous sentons le lac frémir sous les feuilles. Il est calme. Miroir des étoiles où la lune plonge dans son frémissement. Nous chuchotons tous les six, oisillons naïfs de l'obscurité en pleine veillée. Notre première nuit dehors. Yeux aveugles, oreilles tendues, micro ouvert, nos plumages dégoulinent dans l'interstice de l'anonymat nocturne. Sous nos pattes, la branche bat la mesure au rythme de la brume planante. Nous sommes diffus, confondus dans cette stase. Seules nos paroles murmurées écrivent nos existences liées, perchées sur cette branche, battant de l'aile au fil du vent doux qui remue parfois ce lac si bien caché. Voilà, c'était une expérience de veillée. Ouais, pour là, l'intermède entre le texte que je vais lire, je tiens juste à dire, oh là, c'est une expérience assez incroyable qu'on vit, je pense, avec la veillée qui se prolonge ici à R22, tout. Je trouve que c'est des rencontres et une liberté qui est assez rare, en fait, et intéressante. Alors... Donc ce texte s'appelle Le Tunnel, parce que c'est en lien à un deuxième regroupement de textes qu'on va faire ensuite. Alors il fallait parler de souterrain, donc voilà. Il a toujours eu peur des tunnels. C'est peut-être parce qu'il n'a pas pris le bon départ. Né par césarienne, il a fait des siennes, cueilli comme une fleur déracinée. Il ne pleure pas comme un bébé. Il dort gentiment. Il a fait paniquer l'équipe médicale qui lui a donné une petite claque de bienvenue pour l'entendre pousser son cri de vivant. Un effort qu'on lui a arraché parce que lui, il n'a rien prouvé. Vivant, mort, bon, il sait pas trop. Il s'en fout au fond. Dans son tunnel sans fin, sans lumière, où les nuages ne passent pas devant le ciel gris, bleu, rose, non, aucune variation. Un arrondi régulier et infini. Lisse, aucune aspérité. Il avance seul sur ce tapis roulant noir en caoutchouc au rythme de ses pas sans foi ni loi. Figé dans ce jour sans fin, où chaque geste est aussi douloureux que la claque de sa naissance arrachée au sommeil douteux, proche du macabé bien maquillé, sous cloche comme un fromage qui pue. Il a beau se pencher, aucun paysage ne se dessine. Au fond du trou infini, d'un puits sans fin. Le temps ne passe pas. Il retrouve sa vision de naissance, proche d'une taupe. Il creuse sans boussole, avec le sens de l'orientation de Christophe Colomb. Il creuse dans la caverne de Platon. Il creuse avec les ombres des autres, de son esprit. Il enfonce vraiment à l'opposé. Il s'enfonce vraiment à l'opposé de cette fameuse lumière de la vérité. Ou peut-être qu'il est frappé, aspiré par la réalité du trou noir, cette dimension dans l'espace d'où tu ne reviens jamais. Il ne pleure pas, comme à sa naissance. Les claques ne le font plus réagir. Elle glisse en spectre, proche du cœur, et chante la mélodie du bonheur en boucle. Il la regarde nager comme un poisson rouge dans un bocal. Il a nourri la mélodie du bonheur, régulièrement, mais elle finit toujours par crever. Il avance sur son tapis roulant en caoutchouc noir, son nouveau poisson rouge sous le bras, et il a mal aux seules articulations qu'il utilise, ses genoux. Il a mal à en pleurer. Il ne pleure pas. Pleurer serait ressentir.
Les synapses sont mortes. La douleur n'est plus qu'une information qui circule dans les nerfs. Il marche dans son tunnel avec cette technique du zoom rapide, avec ce décor qui avance dans l'escalier du clocher du film Vertigo d'Hitchcock. T'as l'impression que tu tombes, tout s'écrase sur ta gueule, mais t'as pas bougé d'un pouce. Paralysé sur ton tapis roulant. Le tunnel est droit. La fin se rapproche comme ça, en zoom, mais tu vois jamais, mais jamais la sortie. Suspendu dans ton trou noir. Tu te dis que tu aurais peut-être dû essayer de sortir par le tunnel dès ton premier jour.
Merci pour ces cadeaux à l'espace de ce soir, à cette petite parcelle qu'on est en train de faire. Je voulais me permettre, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, surtout quand il s'agit d'une dame et d'une dame importante, que c'est l'auteur Sylvia Winter, qui est une auteure très importante de la Caraïbe, qui a proposé dans un article lors d'un séminaire de littérature cette idée que nous vivions dans la grande fiction de la plantation et que nous devions inventer des parcelles, en anglais « plots », qui sont finalement en fait les moments de réalité, alors qu'elle parlait d'écrire des nouvelles comme auteur. Donc finalement, la fonction qu'on aurait à la littérature d'écrire des histoires, elle inverse en disant « non, on vit dans une fiction et quand on écrit des nouvelles, on crée des parcelles de réalité ». Et donc c'était aussi quelque chose qui nous accompagne ce soir et dont on a parlé. Je voulais rappeler que c'était Sylvia Winter qui avait proposé ce motif et qui m'a été aussi rapporté, parce que c'est important aussi de dire d'où viennent les choses, par Joachim Ben Yacoub, qui est un allié universitaire et auteur belgo-tunisien, avec lequel on est en conversation sur ce texte justement, The Plot and the Plantation. Voilà, c'était une belle transition. Peut-être on peut poursuivre en discutant avec Mamie et Mohamed qui nous attend peut-être déjà en ligne. On va avoir encore un visiteur donc finalement dans notre grande assemblée. Et on va accueillir Mohamed. Je te laisse l'introduire et puis peut-être Mamie pourra être en conversation aussi avec lui.
Tonto ?
Allô Mohamed ?
Ciao!
Come stai?
Come sta? Tutto bene? E voi?
Tu nous entends bien?
Alhamdulillah, voilà.
Est-ce que tu te souviens de Mami Kaba?
Wow! Kaba! C'est mon frère, voilà!
Bonjour, mon mec!
Mon ami, frérot.
Comment vas-tu? Tu vas bien?
Ouais, ça va, chez toi?
Je vais très bien. Et justement, je profite pour te dire que, comme tu le sais déjà, nous sommes réunis aujourd'hui sur un plateau radio de la R22 Tout le monde.
Oui.
Afin d'archiver tout ce qui s'est passé au cours de nos entrevues. Parce que je te rappelle que la Rester étranger et le bureau de déposition... Oui. On co-crée ensemble par le lien de la R22 Tout le monde. Et ce lien, oui, il est devenu ébranlable. C'est un lien qui continue dans le temps et dans l'espace. Et c'est, oui, justement pour les raisons que tu appelles aujourd'hui. C'est pour interagir au fait, quoi, au plateau que la R22 Tout le monde essaie d'élargir et prolonger. Donc c'est un plaisir, oui, que tu nous appelles depuis l'Italie.
Ah, ok.
Et ce que je vais te dire, Mohamed,
oui,
c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société toxique. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'es pas, oui, avec nous. Et donc, moi, pour moi, c'est toxique, cette relation, de fait que tu n'es pas là aujourd'hui avec nous. Et justement, sans pour autant te fatiguer, quel est aujourd'hui ton état psychique, en fait, ton état mental?
Bah, c'est compliqué, wesh.
Mais je sais que tout à l'heure, on parlait avec Olivier et toutes les personnes présentes sur le plateau. Et on disait que, d'après Olivier, qui a reçu une information d'une artiste, chercheur, qui disait que dans la vie, il y a des grandes plantations qui ont été créées, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on essaie de nous mettre. Donc on divague, on voyage. Enfin, par exemple, le fait que tu étais à rester étranger, que moi je suis co-auteur de l'œuvre immatérielle, bio de déposition, et qu'on a pu faire le lien par la R22. Donc les liens qui ont été créés ne sont pas effacés, mais sont en train d'être effacés, mais qui ne vont pas être effacés par les politiques. Et donc justement, donc, les politiques nous mettent dans des espaces comme ça, qu'on ne se retrouve pas, qu'on est perdu. Et donc le fait que tu as été expulsé en Italie, c'est une très mauvaise chose. Une très mauvaise chose. Mais en revanche, est-ce que ce n'est pas un pion aussi pour nous, par exemple, de mener ce combat en Italie, des personnes qui ont été expulsées, et aujourd'hui, on profite de la situation de t'appeler. Aujourd'hui, nous sommes en live. Donc aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a une personne de cœur en Italie qui a été expulsée contre son gré. Donc notamment, on peut transformer cette situation négative en une situation positive, tout en essayant de relativiser.
Mais pourquoi ça clash? Je ne comprends pas bien ça clash.
Oui, tu nous entends, Mohamed, là? Tu m'entends quand je te parle?
Ouais, ça clash chez nous, voilà.
Mais peut-être, juste dis-nous, Mohamed, comment ça va aujourd'hui? Parce que nous, on ne te voit pas, mais on a envie d'avoir des nouvelles du pays.
Ça va un peu stable, ça va, quoi. Avec des histoires compliquées, bah, je suis toujours là.
Et est-ce que tu continues à écrire?
Toujours, c'est ma vida, voilà, c'est ma vida. Toujours. C'est mon ami.
Et Mohamed, qu'est-ce que tu fais de tes écrits depuis l'Italie?
Moi, j'écris beaucoup de choses d'abord.
Oui.
Voilà, j'écris ce qui ne va pas, c'est tout. Tu vois, j'ai. Ce que j'ai commencé à écrire d'abord, tu vois, la fois passée?
Oui.
J'ai eu mon document, tu vois.
Félicitations.
Merci beaucoup. Merci, mais c'est un peu triste aussi.
Donc, à ton avis, tu aimerais avoir ce document-là avec la France ou avec l'Italie? Donc, quand tu dis que c'est dommage par rapport au fait que tu as passé le temps en France et que tu l'as
non,
pas...
Non, si c'est dommage, tu vois. Bah, ici, il y a beaucoup d'hommes qui ont un document, plutôt les Renois, les Africains, tu vois. Maintenant, la fois passée, moi, j'ai ma maîtresse qui m'a envoyé un lien où on cherche le travail, tu vois. Il y a une agence qui cherchait le travail, qui cherchait des personnes pour le travail.
Oui.
Et moi, je suis parti là-bas. Là-bas, on me dit qu'ils ont besoin des gens pour travailler, mais ils n'ont pas besoin des Africains. Tu vois ça?
Oui.
Bah, c'est des choses comme ça, moi, ça. C'est des choses que moi, j'ai écrites dans ma vie, tu vois.
Oui.
Je suis obligé de venir travailler comme des esclaves aussi. Tu vois, j'ai un document et je travaille comme des esclaves ici. Tu m'entends?
Oui, je t'entends, Mohamed. Donc, ça veut dire qu'en Italie, on donne le document à la personne pour être quoi dans la société?
Non, en fait, le problème, ce n'est pas les datos de lavoro, ce n'est pas les gens qui donnent le travail. Les gens qui ont travaillé là, ils ont peur, tu vois? Ils ont peur parce que si moi, je suis un Africain, si moi je travaille comme ça dans un restaurant, si les gens me voient dans le restaurant, ils vont plus venir, ils vont pas venir acheter encore des nourritures, tu vois.
Ouais.
Donc quand ils demandent du travail comme ça, les gens ont peur de prendre un Africain, tu vois.
Oui, Mohamed, c'est pas la première fois que j'entends parler de ces cas-là. Donc,
c'est comme ça que ça fatigue les gens ici, ça fatigue tout le monde ici. Tu as le document, mais tu souffres, tu vois. Ça fatigue tout le monde.
Donc, Mohamed, le fait que. J'imagine qu'il y a d'autres nationalités en Italie qui ne sont pas italiennes, j'imagine qu'ils sont là-bas, qui ne sont pas aussi des Africains, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, autres nationalités. Et donc, ce n'est pas la première fois que j'entends cela. Le fait que l'Italie donne les documents aux Africains. Et que par ailleurs, ils n'arrivent pas à travailler. Comment tu situes le problème? Donc moi, j'ai beaucoup pensé à cela. Donc je me dis que le fait que l'Italie n'a pas de colonie, quand je dis colonie, l'Italie n'a pas su dominer par la façon méchante comme les autres pays ont pu le faire. Donc le fait qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de colonie, il ne faut pas de picking. Donc est-ce que ce n'est pas cette haine? Ou est-ce que ce n'est pas ce remords-là qui continue à exister? Parce que quand on voit en France,
Il y a tellement de sociétés françaises implantées en Côte d'Ivoire, en Guinée, Niger, Mali, etc. Et qu'on voit combien de fois des bateaux, tu connais, on voit combien de fois des bateaux qui quittent l'Atlantique pour passer la Méditerranée et rentrer en Europe. Et donc tous ces bateaux-là, enfin, ils arrivent à bon port, soit en France, soit en Allemagne, ou soit en Angleterre, et pas en Italie. Donc tu ne trouves pas ça un petit peu problématique ou quoi?
C'est ce que là, je ne comprends pas. C'est que la solution, je ne comprends pas. Moi-même, je n'arrive plus à dormir, voilà.
Tu n'avais pas le titre de séjour, tu n'arrivais pas à dormir. Tu as le titre de séjour, tu n'arrives pas à dormir.
Là, tu sais comment on travaille ici? Comment on travaille ici?
Non.
Tu sais comment on travaille ici, frère?
Non.
Ah ouais.
Donc, nous sommes au 21e siècle, 2021. Donc, ça veut dire
moi,
que...
Moi, ça dit quoi?
J'ai dit, nous sommes au 21e siècle, en 2021. Donc, ça veut dire que les conditions de travail en Italie sont comme il y a 50 ans, il y a 60 ans?
Ah ouais, c'est difficile.
Donc, ça veut dire
tu
que...
Tu fais 12 heures de travail, on te paye 10 heures de salaire. L'autre là, ça reste comme ça, tu vois. Ouais. Tu fais 14 heures, on te paye 12 heures, l'autre là, ça reste comme ça, tu vois. C'est comme ça, nous, on vit ici.
Ok, Mohamed.
Tu vois. Moi, je suis en train de parler avec toi aujourd'hui. Moi, j'ai fait 12 heures aujourd'hui, 12 heures, tu vois. Mais ils vont me payer 10 heures de salaire, tu vois. C'est comme ça, on vit ici, frère. Voilà, si c'est pas à cause de ma vitalité, c'est pas à cause de ma mère, moi je vais tout abandonner, je vais retourner en Afrique, voilà.
Mais tout à l'heure, tout à l'heure, sur le plateau, c'est ce qu'on se disait, que le fait que, c'est pas un petit groupe, parce que ça fait des années que nos frères, nos parents, nos papas, nos oncles sont déplacés sur nos terres, et sont sortis de nos continents. Et est-ce que ce n'est pas une chance, une aubaine pour nous qui sommes sortis de se constituer, de se regrouper, afin que ce groupe puisse ramener ce manque-là aujourd'hui? Enfin, je parle de la diaspora, nous.
Mais c'est à nous de se réveiller. C'est à nous de se réveiller, tu vois. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, ceux qui ne veulent pas, on doit écrire, on doit dénoncer. Mais il y a beaucoup, ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur, les Européens, ils ont toujours peur, tu vois. C'est à nous-mêmes aussi, tu vois. C'est à nous la faute aussi. Moi, je dis à mes amis, même de suite là, ils sont en train d'écrire. Il y a des amis qui sont là. Ils me disent, tu fais quoi? Ils disent, ils sont en train d'écrire, ce qui ne va pas. Ils sont en train de se moquer de moi, tu vois. C'est à nous aussi, tu vois. On doit dire, on doit dénoncer ce qui ne va pas. Alors, nous sommes des humains aussi. On a droit à vivre aussi, tu vois.
Donc Mohamed, ça veut dire que le prochain plateau qui va se tenir, tu pourras nous faire parvenir ou nous lire un de tes textes face à la situation actuelle en Italie?
Ouais, actuellement, ils sont en train d'écrire. Bientôt, ils doivent venir, ouais.
Ok. Merci, Mohamed.
Merci, frère. Merci. Bonne chance à tous. Bonne chance. Merci beaucoup.
Merci, Mohamed. Moi, c'est Prince et je te souhaite...
Oh! Wow! Depuis quand tu es quitté?
Ouais, je suis là, Mohamed, seulement qu'on a des fracas un peu partout. Et moi, je te souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation. Allez, au revoir.
À toi aussi, frère. Vraiment, je suis content, voilà.
Mohamed?
Dis-moi.
On va terminer l'émission. On va la terminer avec un extrait des histoires que le groupe avec Olivier, Lucie, Maher, Faten et Delma. On fait ensemble et tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils se regroupent plusieurs fois pour écrire des histoires et aussi avoir cet espace quoi, de liberté à travers le récit et l'écriture. Et pour nous, c'était important aussi de t'entendre ce soir. Ça fait plaisir de t'avoir des nouvelles.
Ouais, ça fait très plaisir, Mohamed, vraiment. Merci à toi.
Merci aussi à vous.
Et du coup, Mamie t'a lancé une invitation pour le prochain plateau. On s'en reparle bientôt.
Inch'Allah.
On se donne des nouvelles. À plus tard, Mohamed.
Oui, on va écouter pour finir ce voyage et cette très belle soirée avec Barbara, Prince, Mamie, Lucie, Nicole, Victor à la technique, Simon et Maher, et le chat aussi, et Ismaël, Bliss, Ismaël qui est pas loin, et la pluie qui vient de nous rejoindre. On va finir cette soirée avec un tout petit fragment qui est la fin en fait du premier épisode de La Forêt, donc réalisé à 5 voix et mis en son et en musique par Victor Donati. Là, on va écouter les 2 ou 3 dernières minutes. C'est la toute fin, en fait. On quitte le premier épisode, on quitte cette forêt. Pour dire aussi que la question de la forêt, peut-être pour donner aussi ce contexte, c'était aussi lorsqu'on est invité en banlieue parisienne. Et moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. On est invité en banlieue parisienne et l'image de la banlieue, c'est vraiment l'image du béton, quoi. On a beaucoup associé en fait l'image de la banlieue au béton. Moi, j'ai grandi en fait dans ce paysage-là, mais il y avait une chose. Et moi-même, en fait, c'est aussi une question de quoi on se dépossède. J'ai aussi grandi avec un environnement où il y avait beaucoup de forêts. Il y a beaucoup de forêts en Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de forêts en Seine-et-Marne. Mais c'est jamais à ça qu'on associe ces départements-là, parce que ça a été des départements de villégiature, des très riches, même des aristocrates, des rois. Mais depuis que c'est devenu aussi les banlieues populaires, on ne pense qu'au béton, qu'aux problèmes. Et en fait, quand on a... Moi, j'ai grandi en Essonne et en Seine-et-Marne, donc à partie sud et est de Paris. Et on oublie nous-mêmes des morceaux de nos vies. Et je pense que la forêt, pour moi, on y réfléchit aussi. C'était aussi une nécessité pour moi de faire un travail d'auto-archive, c'est-à-dire de se rappeler soi-même de sa vie et d'apprendre à la raconter, parce que sinon, même notre vie à nous, elle est racontée par la voix des autres et dans le regard des autres. Et ça, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Donc c'est, pour moi, la forêt, c'est revenir à quelque chose qui était aussi lié à l'enfance, au fantastique, à un univers comme ça où il y avait des possibles, et qui est aussi, pour moi, la forêt de Fontainebleau, qui a été un endroit où j'ai été presque tous les week-ends avec ma famille, mes frères et sœurs à Neuf. Là, on partait en forêt de Fontainebleau toute la journée. Pas toujours content de le faire. Des fois, on préférait rester à la maison. Mais voilà, finalement, ça nous a marqué. Je crois que la forêt m'a pénétré autant que le béton, l'horaire, la fête de la musique, tout ça.
C'est le matin. J'ai une espèce de gueule de bois. Le peyote mélangé aux racines et à la fumée te laisse toujours dans la bouche une espèce de goût de Mr. Freeze au citron. Je me suis dit que c'est le parfum de l'enfance qu'on a imaginé. C'est peut-être des chimistes dans un laboratoire quelque part aux États-Unis ou alors en Allemagne pendant la guerre. Ils voulaient quelque chose pour supporter la peur, les bombes, je sais pas. Pour supporter l'ennui aussi, en banlieue l'été, au milieu de l'après-midi, sous un soleil de plomb quand tu fais un mini-foot, et quand tu zones et tu finis par faire un mauvais truc, tu vois. Il voulait faire quelque chose qui va avec le parfum du bitume quand il vient juste de pleuvoir, un truc pour tuer le temps. Et alors, ils ont fait ça. Je ne sais pas si ça marche vraiment. Le feu est presque éteint. Je me réveille toujours la première, et j'écoute les singes qui ronflent. Le jour arrive sans chichi, avec des paquets d'oiseaux. Un peu plus loin encore, la ville se réveille dans la base des voitures. Par-dessus, il y a encore les moteurs un peu plus aigus des mini-motos qui finissent leur nuit. Et par-dessus encore, les soupirs des bus. Et par-dessus, les voix des gens qui s'appellent ou s'engueulent sur un marché et d'autres choses dont tu ne sais pas encore si ce sont des bonnes ou des mauvaises nouvelles que des gens balancent en arabe ou en français, en wolof ou en créole du chêne pointu. Je regarde un instant l'autre dormir. Souvent, le matin, il est blotti contre son chien électrique de merde. Il a l'air d'un petit gosse avec sa peluche qui espère encore, dans la fin de son rêve, que le monde n'est pas une satanée forêt avec un lac du 18e siècle où un avion s'est écrasé pendant la nuit dans un braillement de grenouilles.